Lisons d'abord dans l'évangile selon Luc, au chapitre 3. Et il arriva que, comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi étant baptisé et priant, le ciel s'ouvrit, et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et il y eut une voix qui venait du ciel. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai trouvé mon plaisir. Début du chapitre 4. Or Jésus, plein de l'Esprit Saint, s'en retourna du Jourdain et fut mené par l'Esprit dans le désert, étant tenté par le diable 40 jours. Verset 14 du chapitre 4. Et Jésus s'en retourna en Galilée dans la puissance de l'Esprit. Mais sa renommée se répandit par tout le pays d'alentour. D'abord ces passages. Le Seigneur a été oint du Saint-Esprit, donc au baptême de Jean-Baptiste, et le Saint-Esprit est venu sur lui sous cette forme corporelle d'une colombe, exprimant la pureté parfaite, sans tache de son humanité. Il a donc été oint, comme il est dit dans les actes, de l'Esprit Saint et de puissance avant son ministère et bien sûr avant son œuvre. Tandis que nous, nous le verrons tout à l'heure, Dieu voulant, nous recevons le Saint-Esprit à travers son œuvre et en vertu de son œuvre. Lui, homme sur la terre, homme parfait et oint de l'Esprit Saint, parce qu'il est le seul homme, le dernier Adam, l'homme des conseils de Dieu, venu dans cette humanité parfaite. Nous avons un titre dans l'Ancien Testament remarquable, c'est l'offrande de gâteau en Lévitique 2. Cette offrande de gâteau, faite de fines fleurs de farine, parle donc de l'humanité de Christ, sans péché, conçu du Saint-Esprit et ensuite oint de l'Esprit Saint. Et sur ce gâteau, l'huile était répandue. Elle était ointe d'huile. Et puis il y avait aussi de l'encens qui n'était pas mesuré. Avec tout l'encens, nous est-il dit. Ce qui exprime toute la valeur que Christ a pour le Père. Et c'est un moment extraordinaire que celui-là, dont Jean-Baptiste est témoin, et aussi le résidu pieux qui attendait le Seigneur. Le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre 4 fois dans l'Écriture. Il s'ouvre ici, et la voix du Père se fait entendre pour proclamer l'excellence de celui qui est là, au milieu de ceux qui viennent se repentir. Lui n'a rien à confesser. Mais dans Matthieu, il dira, il nous est convenable d'accomplir toute justice. Et dans son abaissement profond et dans son obéissance parfaite, il vient au baptême de Jean. Nous avons ici les trois personnes de la Déité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ils ne font qu'un, bien entendu. Quand nous disons Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu dans son essence absolue. Mais dans la révélation, les trois personnes sont distinctes. Le Père, Dieu, le Fils a révélé le Père, évangile de Jean. Personne ne vit jamais Dieu, le Fils unique l'a fait connaître. Et le Saint-Esprit aussi est venu sur lui. Et nous voyons que Il va dans la puissance de l'esprit, il est mené par l'esprit dans le désert pour être tenté. Ce serait intéressant de considérer la tentation, mais ce n'est pas notre sujet ce soir. La tentation dans Luc suit l'ordre moral, non pas l'ordre de Matthieu. C'est l'ordre moral. Dans Matthieu, c'est l'ordre dispensationnel. Je le dis simplement sans m'y arrêter, c'est donc l'ordre que nous avons en Genèse 3 et en 1 Jean 2. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. C'est l'ordre moral. Dans Matthieu, nous n'avons pas le même ordre. Mais revenons à notre sujet. C'est donc comme homme parfait qu'il est mené par l'esprit dans le désert. Cela souligne l'abaissement dans lequel il a voulu venir, il est mené par l'Esprit. Il est Dieu. Il est Dieu sur toute chose, béni éternellement, mais il est homme. Homme dépendant. Et justement, Luc, l'Esprit de Dieu dans Luc souligne l'humanité de Christ, de façon particulière, spéciale. Aucun autre évangile ne nous parle de la crèche, ni on nous dit qu'il a été assisté par des femmes. Il n'y a que Luc qui le dit. Et qu'un ange l'a fortifié en Gethsémane. Tout cela est propre à Luc, qui procède, a-t-on dit, à un arrangement moral de ses matériaux. Il est aussi, donc, après cette tentation, il entre dans son ministère, au verset 14, et c'est dans la puissance de l'Esprit. Quelle puissance l'Esprit pouvait en lui agir en toute sa puissance, ce qu'il ne peut pas faire en nous, parce qu'en nous il y a la chair, il y a le vieil homme. Il est condamné, nous le savons, mais cependant il se manifeste hélas parfois. Donc, Jésus, loin comme homme du Saint-Esprit, on a ici ce que nous avons en Lévitique 2, savoir qu'il priait. Et ce n'est pas dit, mais dans Matthieu, il priait. La prière exprime la dépendance, et pour nous aussi, quand nous prions, c'est l'expression de la dépendance vis-à-vis de Dieu. Jésus priait. Et cela correspond à l'encens dont il est parlé en Lévitique 2. Nous allons maintenant aller plus loin et passer dans l'Évangile selon Jean. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 3, il s'agit de la rencontre du Seigneur avec Nicodème, et nous lisons au verset 3, « Jésus répondit et lui dit, en vérité, je te dis, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te dis, si quelqu'un est né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit et d'esprit. Nous avons là, dans ces paroles du Seigneur, les deux agents par le moyen desquels la conversion est produite dans une âme. L'eau, c'est la parole. Et le Saint-Esprit. Donc, pour entrer dans le royaume de Dieu, il y aurait aussi bien des choses à dire sur ces expressions qui ne sont pas toujours très, très claires dans l'esprit de beaucoup. Le royaume de Dieu est le royaume des cieux. Mais c'est encore un autre sujet. Le royaume de Dieu, c'est le côté moral. On entre dans le royaume de Dieu par la nouvelle naissance, de même qu'on entre dans le corps de Christ aussi, par la nouvelle naissance. C'est au fond, c'est la même chose. On est né d'eau et de l'esprit. Lorsqu'une âme entend la parole de Dieu, le Saint-Esprit vient l'appliquer à sa conscience, le convaincre de péché et l'amener à croire au Fils de Dieu. Et nous avons dans ce évangile remarquable ce verset extraordinaire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la substance même de l'Évangile. Croire au Fils pour avoir la vie. Nous aimons à penser que tous ici, nous avons reçu le Seigneur comme notre Sauveur. Alors s'il en est ainsi, vous êtes nés de nouveau. La nouvelle naissance est une œuvre de Dieu dans l'âme. Vous pouvez faire partie de la chrétienté par le baptême chrétien, qui est un baptême d'eau, différent de celui de Jean, bien sûr, mais ce n'est pas ce qui donne la vie. Ne nous y méprenons pas. Et même parmi nous, chers jeunes gens, vous avez été élevés par des parents chrétiens, vous avez peut-être été baptisés. C'est-à-dire, vous êtes entré dans le second cercle d'Éphésiens 4. Vous êtes dans la chrétienté, mais vous n'êtes pas dans le premier cercle. Il y a un seul corps et un seul esprit. Dans le premier cercle, il n'y a que des croyants. Vous avez des privilèges très grands. Ah, nous souhaitons de tout cœur que vous ne les méprisiez pas. Comme Ésaü méprisa son droit d'aînesse. Vous avez été élevé par des parents chrétiens, mais ce n'est pas ce qui vous sauve. Il faut que vous veniez vous-même au pied de la croix et que vous receviez le Seigneur pour vous-même. Il faut que vous puissiez dire, il est mon sauveur. Il n'est pas seulement le sauveur de mes parents, il est le mien. Le sauveur de tel ou tel que je connais. Il faut qu'il soit le vôtre. Nicodème, ce chef des Juifs, savait beaucoup de choses sur la loi. Et il vient de nuit, il avait la crainte de ses compatriotes, de ceux qui le connaissaient dans sa position au milieu des Juifs. Il vient de nuit, mais il vient quand même à celui qui seul peut lui donner le bonheur. Il vaut mieux venir de nuit que de ne pas venir du tout. Plus loin, Nicodème déploiera son drapeau au chapitre 8e de cet évangile. Il dira, jamais homme ne parla comme cet homme. Notre loi juge-t-elle l'homme avant de l'avoir entendu? Il prendra la défense du Seigneur et puis après, il s'occupera de son corps avec Joseph d'Arimathée. Alors là, c'est en plein jour. Voyez les progrès de l'âme. D'abord de nuit, puis il a fait des progrès, Nicodème, au chapitre 8, et enfin, il se déclare ouvertement pour celui qui a été crucifié. Chers amis, si nous sommes croyants, eh bien, il faut déployer notre drapeau. Tu as donné une bannière à ceux qui te craignent afin de la déployer à cause de la vérité. Qu'il nous soit accordé de rendre témoignage. Là où nous sommes, même un jeune enfant peut le faire. La petite fille qui a conduit Naaman vers le prophète Élisée, elle était jeune. Oh, si mon Seigneur connaissait le prophète. Ce n'est pas un conseil qu'elle donne, ce qui ne conviendrait pas à un enfant de cet âge. C'est un souhait qu'elle exprime. Oh, si mon Seigneur. Voyez l'attitude de cet enfant. Elle ne donne pas un conseil à sa maîtresse, à la femme de Naaman, non. Elle exprime un souhait. Et nous aussi, nous l'exprimons pour vous, chers amis, ici ce soir. Oh, si vous connaissiez celui qui vous aime, celui qui a porté vos péchés sur la croix. Si vous saviez quel sauveur je possède, dit un chantier. Nous souhaitons que vous veniez aussi à lui, comme Nicodème ici. Donc nous avons ici l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans une âme. la parole appliquée par le Saint-Esprit. Nous avons au chapitre 4 une autre rencontre avec la Samaritaine, alors tout à fait différente. Ces deux personnes sont très différentes quant à la condition sociale, bien entendu. Nicodème était un chef des Juifs, la Samaritaine une pécheresse qui se cachait pour venir au puits de Jacob. En plein midi, quand il fait très chaud dans ces pays-là, c'est pas le moment de sortir. Elle vient pour que personne ne la voie. Mais voilà que le Seigneur l'avait vue. Il savait que cette âme avait besoin de lui. Et fatigué, il s'assied sur le puits de Sichar. Et il va parler à cette femme, « Donne-moi à boire. » D'abord la grâce, et puis plus loin la vérité. « Appelle ton mari. » Ça, c'est la vérité. Mais d'abord la grâce. Et la femme n'est pas partie. Elle est restée là. Quel modèle nous avons, nous aussi, pour parler à une âme. Il faut apporter la grâce, mais aussi la vérité. Et le Seigneur est le modèle. Alors, si tu connaissais le don de Dieu, nous lisons verset 10, « Et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui eusses demandé, et il t'eût donné de l'eau vive ?» Quelquefois, on entend, ce n'est peut-être pas une erreur, fondamentalement, mais le don de Dieu ici, c'est l'Esprit. N'est-ce pas ? Si tu connaissais le don de Dieu, virgule, et qui est celui ? C'est Jésus. Le don de Dieu, dans Jean 4, c'est l'Esprit. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est peut-être pas une très grave faute. Il est bien vrai que le Seigneur est le don de Dieu, grâce à Dieu pour son don inexprimable. Mais ici, dans le contexte, c'est le don de l'Esprit. Et qui est celui, alors c'est la personne même du Seigneur, qui te dit, donne-moi à boire. Et alors cette femme, qui avait soif de bonheur, s'en ira combler. Et dira, ah, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Quel témoignage elle rend. Et beaucoup crurent en lui à cause de la parole qu'elle avait dite. Et le Seigneur se réjouit de ce que la moisson, et déjà les campagnes sont blanches pour la moisson, verset 35. Et puis, il lui révèle, et c'est tout à fait remarquable, une vérité dont nous jouissons aujourd'hui, une vérité fondamentale, savoir que le Père cherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité, verset 23. Ah, ce n'est pas à Nicodème que le Seigneur a confié cette révélation. Non, c'est à la Samaritaine. À une femme pécheresse, ce qui montre la grâce infinie de Dieu. Et qui étions-nous ? Et qui étions-nous ? Des pécheurs et coupables. Et le Père en a fait des adorateurs. Et à la fin de ce même évangile, il va révéler encore à une femme qui avait été possédée par sept démons, qui monte vers son Père, je monte vers mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et votre Dieu, à Marie donc, Marie de Magdala. Remarquez, là aussi, il y a quelque chose à noter. Le Seigneur ne dit pas, je monte vers mon Père et notre Père. Non. Il a la prééminence. Je monte vers mon Père et votre Père, celui qui deviendra votre Père après ma mort et ma résurrection. Mais nous ne sommes pas sur le même pied que lui. On a le même sens en hébreu 2 quand il est dit, c'est un passage d'ailleurs qui a beaucoup exercé les commentateurs, celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous d'un. Il n'est pas dit d'un même Père. Dieu est notre Père, mais en vertu de l'œuvre de la croix, mais Christ est le Fils du Père. Il est son bien-aimé. Il est le premier-né en toutes choses. Nous signalons cela en passant, mais continuons notre sujet sur le Saint-Esprit. Alors, nous passons maintenant au livre des Actes. Au livre des Actes et au chapitre 2. Seigneur est donc mort, ressuscité, élevé dans la gloire, et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et il se fit tout à coup du ciel un son, comme d'un souffle violent et impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il leur apparut des langues divisées comme de feu, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'énoncer. Nous sommes donc là à la Pentecôte. En Lévitique 23, nous avons les sept fêtes de l'Éternel et la Pentecôte était donc le 50e jour après la gerbe tournoyée. En effet, le Seigneur est resté 40 jours avec les siens, et puis il a été élevé dans la gloire, comme on le voit au chapitre 1er, et au verset 9, une nuée le reçut et l'emporta de devant leurs yeux. Les siens l'ont vu, comme nous chantons, Cantique 112. Et voilà qu'un événement extraordinaire se produit. Du haut de la gloire, le Seigneur envoie l'Esprit Saint pour habiter dans les croyants, dans l'Église. Et il leur l'avait annoncé au chapitre 16. Il aurait peut-être fallu quand même en dire un mot, parce qu'il est beaucoup parlé du Saint-Esprit dans ces chapitres. De l'Évangile selon Jean, où on a quatre caractères du Saint-Esprit. Par exemple, au chapitre 14, verset 25, « Je vous ai dit ces choses, demeurant avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. » Voilà l'annonce de ce qui arrive en acte 2, à la Pentecôte. Il est donc docteur de Saint-Esprit, il vous enseignera, il est répétiteur, il vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites, il est témoin au fin du chapitre 15, « Je vous enverrai donc près du Père, verset 26, l'Esprit de vérité qui procède du Père, celui-là rendra témoignage de moi. » Et enfin, il y a même cinq caractères, il est conducteur au verset 13 du chapitre 16, « Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il est prophète. » Il vous annoncera les choses qui vont arriver. Donc, docteur, répétiteur, témoin, conducteur et prophète. Voilà cinq caractères de l'Esprit de Dieu dans ces chapitres. Et en effet, nous avons l'Apocalypse, par exemple, qui est la révélation de Jésus-Christ, et nous savons les choses qui vont arriver par ce livre. Il faudrait ouvrir une parenthèse et vous remarquerez que dans l'Apocalypse, le Saint-Esprit n'est plus comme il est actuellement dans l'Église comme personne divine. Il est comme esprit de puissance et de jugement, les sept esprits de Dieu qui sont devant le trône. C'est le même esprit, mais il n'est plus comme personne divine sur la terre. Comme dans l'Ancien Testament, par exemple, vous avez un David qui dira « L'Esprit de l'Éternel a parlé en moi, et sa parole a été sur ma langue, mais il ne l'avait pas comme personne divine en lui. » Tous les saints de l'Ancien Testament ont été conduits par le Saint-Esprit, mais ils ne l'avaient pas comme personne divine. Consolateur, docteur, prophète. Personne divine est là, et c'est ce qui marque le christianisme, l'état chrétien, d'un sceau indélébile. Aucune autre dispensation n'est semblable à celle que nous vivons. Elle a commencé à la Pentecôte et elle se terminera à l'avenue du Seigneur pour enlever les saints. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens !» et l'Esprit partira avec l'Église. Ensuite, alors après, il reviendra, mais comme esprit de puissance, nous le répétons, dans l'Apocalypse, mais non pas comme personne divine habitant dans le croyant. Alors, c'est donc là l'accomplissement de cette fête annoncée déjà en Lévitique 23, la Pentecôte. Et c'est ce qui ouvre l'état chrétien, la dispensation, si vous voulez, on emploie souvent le mot économie, c'est peut-être un peu, peut-être que les jeunes le trouvent un peu étrange, ça veut dire période tout simplement. C'est la plus longue période de la grâce, c'est celle qui a duré le plus longtemps, bientôt 20 siècles, et c'est ce qui prouve que la patience de Dieu est infinie, et que le jugement est toujours son œuvre étrange, et son travail inaccoutumé. Mais il arrivera. Cette période va se terminer. Supposez que le Seigneur vienne tout à l'heure, chers amis, qui resterait sur ses bancs? Nous osons espérer personne. Mais ce sera comme un couperet, n'est-ce pas? L'un sera pris, l'autre laissé. C'est solennel. C'est solennel. Et nous pensons à nos enfants, nous pensons à nos jeunes, nous pensons à des plus âgés, dans nos familles, qui ne sont pas au Seigneur. L'un sera pris, l'autre laissé. Laissé pour le jugement. Parce qu'après, il n'y aura plus, pour cela, d'espoir. Deux Thessaloniciens, deux nous dit, qui recevront une énergie d'erreur pour croire au mensonge. La chrétienté apostate, comparée à Babylone, sera jugée définitivement. Alors, bien sûr, l'évangile du royaume sera prêché et s'adressera à ceux qui n'ont pas profité de l'évangile de la grâce. Mais pour cela, il n'y aura aucun recours. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Que personne ici ne soit laissé. Quel malheur! Quel malheur! Que Dieu, dans sa grâce, vous donne de venir au pied de la croix, à cette source féconde. Salut du monde, le sang du Christ est répandu. Ce sang qui justifie, qui purifie de tout péché quiconque croit. Alors voilà, ce sont les débuts de l'Église qui vont, c'est le christianisme qui va commencer avec le noyau juif. Ils étaient environ 120, et au fond, l'assemblée est constituée par un noyau juif. Les disciples, et puis il s'en est ajouté, ils étaient environ 120, n'est-ce pas, au chapitre 1er. Et puis après, il a été ajouté 3000 âmes, et puis 5000 âmes, parce que l'Esprit agissant avec puissance, il y avait au début des conversions nombreuses. Et un frère a écrit ceci: aujourd'hui, il faut plutôt 5000 prédications pour convertir une âme. À cette époque-là, l'Esprit de Dieu agissait avec une puissance extraordinaire. Il y avait aussi les dons qui accompagnaient, qui accréditaient le christianisme. Par l'Esprit, les apôtres faisaient des miracles, des dons de grâce, de guérison. C'était les ornements de l'Église. Et nous n'avons plus aujourd'hui à y prétendre. C'est fini. Peut-être que certains chrétiens s'en réclament. Nous respectons leur conscience, mais nous ne pensons pas que l'on puisse aujourd'hui prétendre à des dons de guérison. L'imposition des mains. Ce n'est pas un sujet qui est devant nous, mais si on veut bien regarder dans le livre des Actes, il n'y a aucun miracle en faveur d'un croyant. C'est toujours en faveur des incrédules. Il n'y a qu'un cas, et ce n'est pas une guérison, c'est une résurrection, c'est la résurrection de Dorcas. C'est quand même parlant, cela. À ceux qui ont un certain engouement pour ces choses-là, aujourd'hui, on n'a pas dans les Actes, en faveur des croyants, nous le répétons, ils ont été donnés pour accréditer le christianisme, cet ordre de choses nouveau, introduit par l'œuvre de la croix, dans le monde. C'est pourquoi l'apôtre dira en 1 Corinthiens 13, « Y a-t-il des langues ? Elles cesseront. » Et Paul lui-même dira, « J'aime mieux prononcer 5 paroles que 10 000 paroles en langue. » Et pourtant, il pouvait le faire. Non. Nous ne voyons pas, ni dans les Épîtres, surtout la première aux Corinthiens, qui est la charte de l'Église, que l'on puisse prétendre à ces dons. Mais que Dieu réponde à la foi personnelle, cela c'est possible. Jacques V, la prière de la foi sauvera le malade. Mais la prière de la foi, il se peut que le Seigneur réponde directement à quelqu'un qui s'attend à lui. Mais il se peut aussi qu'il le retire dans ses voies qui sont sagesse et amour. Nous n'avons pas à en décider. Nous devons nous soumettre. Et on cite souvent Acte 12, on cite le cas de Pierre qui a été délivré de la prison. Mais on passe rapidement sur le début du chapitre et Jacques, il a été décapité. Il avait fini son service. Dieu l'a permis. Mais il a délivré Pierre parce que Pierre avait encore un service à accomplir. Et Paul dira, j'ai laissé Trophime malade à Milet. Il y a la maladie d'Épaphrodite. Il y a les indispositions de Timothée. Paul n'a pas cherché à user de ce don pour guérir, pour soulager. Il respectait le gouvernement de Dieu dans sa maison. Et cela, donc, cela doit nous rendre prudents à l'égard de ces dispositions que l'on rencontre aujourd'hui autour de nous. Sans pour autant méconnaître que ce sont de chers enfants de Dieu. Mais soyons prudents, à cet égard, la parole est là. Nous avons donc ce qui correspond à Babel, ici, ils s'exprimèrent dans les langues, on les comprenait, ils se comprenaient entre eux. À Babel, c'est la confusion, Genèse 11. Ils avaient fait une tour qui montait jusqu'aux cieux, Dieu dit, eh bien, il abaisse l'orgueil de l'homme, il confondit leur langage, et, chers frères et sœurs, les conséquences sont encore là aujourd'hui. On ne se comprend pas d'un pays à l'autre, à moins d'apprendre la langue, mais ce n'est pas toujours évident. Et on peut peut-être bien savoir 2, 3 ou 4, mais... Non, le gouvernement de Dieu est là, et ses conséquences... Les conséquences de Babel sont là, mais pour un moment, et au début du christianisme, ils ont pu entendre dans leur langue les choses merveilleuses de Dieu. Voilà ce qui s'est passé à la Pentecôte. C'est un peu différent du don des langues de 1 Corinthiens 14. Ce ne sont pas les mêmes, ce n'est pas le même don. Ici, ils se comprenaient dans leur propre langage, on voit au verset 6, n'est-ce pas, afin que chacun comprennent le message de l'Évangile. Fin du verset 8 aussi, chacun dans son propre langage. En 1 Corinthiens 14, alors, c'est un don particulier. Paul l'avait sans doute, et nous l'avons dit tout à l'heure, il en usait peu, il en usait avec sagesse, parce qu'il fallait que s'il parlait en langue, un autre interprète. Voilà la pierre de touche aussi, dans un rapport avec ce qui se passe de nos jours. Est-ce que quelqu'un peut interpréter celui qui prétend parler en langue? Le même esprit donnait ce langage mystérieux, mais il donnait à l'autre l'interprétation. Alors, il faut bien souligner cela. C'était donc un don qui a été un des ornements de l'Église. Mais on a dit, Dieu ne raccommode pas ce que nous avons déchiré. La ruine est entrée dans l'Église, et à la fin du livre des Actes, Paul dira aux anciens d'Éphèse, en pleurant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Des mots redoutables se lèveront parmi vous et garderont le troupeau. Et c'est arrivé. Et c'est pourquoi nous avons les épîtres à Timothée, l'épître de Jude, les épîtres de la fin. Dieu l'a permis pour que nous ayons aujourd'hui les ressources nécessaires pour lutter contre les erreurs. On a par exemple la deuxième épître de Jean. Elle est écrite, vous l'avez remarqué, non pas à un frère, mais à une sœur. La dame élue. Et dans cette épître, il nous est indiqué ce que nous ne devons pas recevoir. Et dans la troisième, ce que nous devons recevoir. Eh bien, chère sœur, vous avez aussi un service. La deuxième épître de Jean est là. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne recevez pas dans votre maison. Eh bien, une sœur à sa place, pas dans l'assemblée, mais chez elle, elle peut réfuter l'erreur. Mais là, nous avons la deuxième épître de Jean. Et nous avons donc à éprouver les esprits. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. C'est la pierre de touche. Parce que beaucoup diront, mais Jésus c'était un homme excellent, c'était un prophète, mais on ne reconnaît pas qu'il est Dieu. Et c'est là où il faut faire attention. Jésus-Christ venu en chair. Alors nous sommes dans des jours difficiles, chers amis, vous en êtes conscients. Et Satan se déchaîne parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Et nous avons donc à prendre garde, éprouver les esprits. Cela veut dire discerner ce qui est selon Dieu et ce qui ne l'est pas. Et les sœurs dans l'assemblée sont aussi responsables, je dirais, que les frères, à l'égard de ce qui est dit et professé. Bien sûr, elles ne le diront pas publiquement, mais elles peuvent le dire à leur mari ou à un frère. Mais tiens, cette chose-là ne me paraît pas juste. Il faut donc, et chacun est concerné, n'est-ce pas ? Les frères et les sœurs sont responsables de ce qui est professé à la table du Seigneur. Sans doute, il faut passer peut-être sur des erreurs de langage, des choses qui ne sont pas, fondamentales, bien sûr. Mais lorsqu'il s'agit de la doctrine chrétienne, il faut être vigilant. Parce que l'ennemi est subtil. Mais je m'écarte un peu encore de mon sujet. Nous avons donc le Saint-Esprit dans les actes. C'est le baptême du Saint-Esprit. Nous avons donc maintenant en 1 Corinthiens, par exemple au chapitre 3, et même au chapitre 2, verset 12, « Mais nous, dit l'apôtre, nous avons reçu non l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui est de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été librement données par Dieu, lesquelles aussi nous parlons, non point en paroles enseignées de sagesse humaine, mais en paroles enseignées de l'Esprit, communiquant des choses spirituelles par des moyens spirituels. Or, l'homme animal ne reçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles lui sont folies, et il ne peut les connaître parce qu'elles se discernent spirituellement. Voilà un passage fondamental en rapport avec l'assemblée, la doctrine dans la vie. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut nous faire entrer dans la parole de Dieu. Ils sont les choses profondes de Dieu. Et dans nos jours où ce qui est intellectuel a tendance à prendre le dessus, nous avons à veiller à prendre garde. Il est bien évident que Dieu a donné des dons. Tel frère, telle sœur peut être doué d'une intelligence remarquable, mais cette intelligence doit être au service de l'Esprit. Elle doit être subordonnée à l'action de l'Esprit. Faisons bien attention à cela. Nous arrivons dans des jours où on discute, on raisonne sur la parole de Dieu. On dit, mais c'est, nous sommes au XXe siècle, mais ça c'est suranné, c'est dépassé. Ah non, non. Prenons garde, chers amis. Il n'y a qu'une lampe pour nous éclairer dans la parole, c'est le Saint-Esprit. Que nous soyons ignorants ou que nous soyons intelligents, c'est le Saint-Esprit. Et on a vu des serviteurs tomber dans des erreurs funestes parce que leur intelligence les a emportés. On en est même arrivé à nier les peines éternelles. Mais c'est un frère que j'ai connu dans mon enfance. C'est terrible, ça. Et qui nous avait enseigné en son temps. Et qui était un docteur en la parole. Prenons garde. Si Dieu vous a confié, chers jeunes gens, une intelligence, remerciez-le. Mais mettez-la au service de l'Esprit. Ne vous laissez pas emporter par cela. C'est très dangereux. On a besoin d'y insister. Nous en parlions avec un frère il y a ces jours-ci. C'est une chose fondamentale. Parce que on en arriverait à tordre des passages et à faire dire à l'Écriture ce qu'elle ne dit pas. Et nous avons besoin. Qu'est-ce qu'il nous faut devant la parole de Dieu? Mais la simplicité d'un enfant. Le Seigneur a dit, ô Père, tu as révélé ces choses aux petits-enfants. Tu les as cachées aux sages et aux intelligents. Et nous n'y connaissons nullement ce qui peut être donné à un homme, les capacités intellectuelles. Mais si elles sont au service de l'Esprit, quel bonheur et quelle bénédiction. Seulement, c'est là qu'est le danger. Vous voyez, c'est clair, ici, l'homme animal, c'est l'homme dans la note animé seulement par son âme créée, sans l'enseignement et la puissance du Saint-Esprit. Donc, il ne peut absolument pas discerner ce qui est de elle est folie, la parole est folie. Et on l'a souvent entendu dire ou lu, donnez la Bible à un grand savant, et qu'est-ce qu'il en fera? Et lui est fermé. À moins que l'Esprit de Dieu ne fasse son œuvre en lui, qu'il soit né de nouveau, mais autrement, non. C'est un livre fermé pour l'homme naturel qui n'a pas la connaissance de Dieu, qui n'est pas croyant. Or, il pourra peut-être faire. On a fait de la théologie. Il y a des théologiens, mais ils nous conduisent où, ces théologiens? Ils ne nous conduisent pas dans la vérité. Un serviteur ne sort pas d'une école de théologie, il sort de l'école du maître. C'est tout à fait différent. Voyez un Élie, et bien c'est derrière le kérit que Dieu l'a enseigné. Au torrent du kérit, dans la solitude, les corbeaux le nourrissaient, s'attendaient à Dieu. C'est l'école de Dieu, ça. Et Moïse, 40 ans derrière le désert. Il avait été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, ce n'était pas rien à l'époque. Non, pour conduire mon peuple, ça ne te sert à rien. Il faut que nous chancelions. 40 ans derrière le désert. Voilà l'école de Dieu. Dieu veut nous former, chers frères et sœurs. Il veut nous former à son école. que nous soyons des élèves diligents, obéissants, et surtout soumis, recevant avec, voyez les Béréens, ils recevaient avec toute bonne volonté les Écritures. Ils examinaient pour voir s'il en était bien ainsi, pourtant c'était les apôtres qui parlaient. C'est remarquable ces Béréens. Ils regardaient dans les Écritures pour voir si c'était bien ça. Alors nous avons aussi à nous soumettre à l'enseignement de l'Écriture et surtout, être devant cette parole comme un petit enfant qui croit tout ce qu'on lui dit. C'est cela que Dieu veut. C'est cette disposition d'esprit qu'il veut voir en nous. Alors à partir de ce moment-là, il peut nous enrichir. Mais si le moi se met en avant, tout est perdu. Nous avons donc cet important passage, et puis nous avons au chapitre 3 un autre passage solennel, verset 16. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un corrompt le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et tel vous êtes. » Les questions d'édification ici de l'Assemblée confiées à la responsabilité de l'homme. Alors il y a trois catégories. De bons ouvriers qui font du bon ouvrage, c'est-à-dire qui apportent de l'or, verset 12, de l'argent, des pierres précieuses. Il y a de bons ouvriers qui font du mauvais ouvrage, ils apportent alors du bois, du foin, du chaume. L'ouvrage est consumé. Et il y a de mauvais ouvriers, Dieu les détruira. De mauvais ouvriers, ce sont les apostats, ceux qui s'élèvent contre Dieu. Trois catégories. Dans laquelle sommes-nous, j'espère, dans la première. De bons ouvriers qui font du bon ouvrage. Des choses qui demeurent, l'or, l'argent, les pierres précieuses. Mais le reste, brûlé. Mais enfin, l'ouvrier n'est pas perdu, dans le deuxième cas. Son ouvrage est perdu. Mais lui est sauvé comme à travers le feu. C'est le cas de Lot, par exemple. Lot, il a été sauvé comme à travers le feu. Toute sa vie a été perdue. Et nous pourrions bien perdre la nôtre, cher ami. Chers jeunes gens, oui, commencez là avec le Seigneur votre vie. Vous savez, elle n'est pas longue la vie, elle vous paraît longue et nous savons, nous avons été jeunes avant vous, quand on a 20 ans, bien sûr, la vie paraît longue, mais quand on en a 70, elle paraît courte. Nos jours sont comme l'ombre sur la terre. Qu'est-ce que votre vie ? Une vapeur. Vous avez vu une vapeur, paraissant et disparaissant. Telle est la mesure que Dieu nous donne. Ah, si vous en avez, si votre vie, vivez-la pour Christ, il en vaut la peine, disait un cher conducteur, vous avez la somme des vérités, disait-il à ceux qui étaient auprès de son lit de mort, vivez-les. Il n'y a rien à ajouter. La parole de Dieu est complète, il n'y a rien à ajouter, il reste à le vivre. Vivez-les. Et voyez Paul, pour moi, vivre, c'est Christ, quel homme extraordinaire, quel serviteur, n'est-ce pas? Un vase brisé, bien sûr, méprisable dans cette prédication. Dieu lui avait donné une écharpe, on suppose, dans les yeux, puisqu'il dit aux Galates que s'ils avaient pu lui donner leurs yeux. Mais quelle puissance dans sa prédication. Pourquoi? Parce qu'il était brisé et que le moi disparaissait pour faire place à l'Esprit, à la puissance de l'Esprit, que Dieu veuille nous donner aussi. Laissez agir en nous cet Esprit qui nous a été donné. Notre corps en est donc le temple, c'est sérieux cela. Le temple du Saint-Esprit, notre corps. Quelle vérité. Alors nous, quand nous réfléchissons à cela, nous disons, mais nous passons la journée, nous disons, mais qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as dit? Toi, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Combien cela nous amène au sérieux et à la gravité qui comprend. pouvons pas faire n'importe quoi. Sinon, alors nous avons, nous lisons ces passages, en Éphésiens, toujours à propos de l'esprit, Éphésiens 4, verset 29, qu'aucune parole déshonnête ne sorte de votre bouche, mais celle-là qui est bonne, propre à l'édification, selon le besoin, afin qu'elle communique la grâce à ceux qui l'entendent. Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ce sont des passages, chers amis, qu'on ne lit pas toujours en assemblée, parce qu'ils nous sondent des paroles déshonnêtes. Nous savons ce que c'est. Quelquefois, elles montent à nos lèvres. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, nous ne sommes pas au-dessus des autres. Eh bien, il faut dire, Seigneur, veille sur l'entrée de mes lèvres. Il faut prier. Paroles déshonnêtes. Et plus loin, paroles folles, verset 4, ou plaisanteries, lesquelles ne sont pas bienséantes, comme il convient à des saints. C'est la parole de Dieu qui nous le dit, car ce n'est pas moi. Paroles folles. Est-ce que nous n'en prononçons pas dans le cours d'une journée des paroles folles et les plaisanteries? Que Dieu nous accorde d'avoir plutôt cette parole qui communique la grâce à ceux qui l'entendent. Que votre parole soit dans un esprit de grâce, en Colossiens, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. La grâce, mais aussi le sel. Le sel, c'est la séparation du mal, la séparation intérieure. Nous sommes appelés à cela, chers amis. C'est pratique. Il n'y a rien de plus pratique, ce n'est pas de la théorie. Là. Ce sont des choses, la parole de Dieu entre dans des détails. Plus loin, elle entrera dans les relations de mari et femme, de serviteur et maître. Il n'y a rien de plus pratique, ni de plus actuel. Et tout est réglé par cette parole. À nous de nous y conformer, avec le secours du Seigneur, bien sûr. Alors n'attristez pas, voyez, si je prononce une parole folle, vais-je attrister l'Esprit Saint qui est en moi? Si je ne le juge pas, le culte que j'apporterai au Seigneur sera entaché le dimanche matin. Si je le juge, ça va. Il ne faut pas venir avec cela sur soi. Il y a des ressources. Nous avons un avocat auprès du Père. Il faut juger tout ce qui est mauvais en nous. Mortifier nos membres qui sont sur la terre, selon Colossiens 3. Un autre passage au chapitre 5, toujours en rapport avec l'esprit. Ne vous enivrez pas de vin, en quoi il y a de la dissolution, mais soyez remplis de l'esprit, vous entretenant par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels, chantant des psalmodiens de votre cœur au Seigneur. Soyez remplis de l'esprit. N'attristez pas l'esprit, mais ici, c'est le côté positif, soyez-en remplis. Côté négatif, n'attristez pas. Côté positif, soyez-en remplis. Et nous avons un homme dans le livre des Actes dont il est dit qu'il était plein de l'Esprit Saint, c'est Étienne, le premier martyr de l'Église, qui mourut lapidé. Il était plein de l'Esprit Saint et de foi. Quel témoin! Aussi, il a pu dire: ne leur impute point, Seigneur, ce péché. Il suit les traces du Maître qui avait dit sur la croix: Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Le temps avance, je voudrais encore faire remarquer dans Romains un des rôles de l'Esprit de Dieu en nous, c'est de nous rendre conscients de notre relation avec le Père. Romains 8. Verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être de rechef dans la crainte, Mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors vous pouvez remarquer que la note petit b nous montre que dans ce chapitre, la vie dans le croyant et le Saint-Esprit sont souvent identifiés. De sorte que ici, l'esprit d'adoption, c'est plutôt notre état, comme étant jouissant du Saint-Esprit, en étant scellé. Vous voyez, il y a la note, le petit b, vous pouvez le constater. L'esprit lui-même est l'état du croyant, dans la note au bas de la première page, page 124, sont souvent trop intimement liés dans ces versets 1 à 11 pour faire la différence entre esprit avec un E majuscule et esprit et les séparer l'un de l'autre. Mais alors, au verset 16, c'est bien le Saint-Esprit avec un E majuscule, l'esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, voilà un des rôles du Saint-Esprit, nous faire jouir de cette relation si douce avec le Père. Nous sommes enfants de Dieu, nous avons sa nature. Combien c'est beau, combien c'est grand cela, et savoir que nous sommes enfants de Dieu. Et l'Esprit, comme disait un frère, nous avons beaucoup aimé, mais qui est maintenant auprès du Seigneur, il disait ceci, il l'a dit sur le plateau plus d'une fois. Si vous êtes croyant, le Saint-Esprit se chargera de vous le faire savoir. Mais c'est bien vrai. Il rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous pensons aux âmes qui peut-être seraient troublées, et il y a des luttes souvent après la conversion, peut-être chez les jeunes, les nouveaux convertis, mais même plus âgés, Satan est là et on arrive quelquefois à douter, mais est-ce que je suis bien sauvé parce que j'ai fait ceci ou cela aujourd'hui? Si vous êtes bien sauvé, ça c'est Satan qui vous trouble, mais l'Esprit de Dieu en vous rend témoignage. Vous avez cru, vous êtes sauvé. Qui croit au Fils a la vie. Nous avons aussi en Éphésiens 1, un autre aspect de l'Esprit de Dieu, au verset 13. Éphésiens 1, 13, ayant entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, auquel aussi ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse, qui est les arts de notre héritage, pour la rédemption de la possession acquise à la louange de sa gloire. Il est vu ici comme un sceau et comme des arts. Quand une âme est née de nouveau, Dieu met son sceau sur cette âme, le Saint-Esprit vient sur cette âme. Alors on a dit aussi ceci, c'est que il y a un baptême du Saint-Esprit général qui a été accompli à la Pentecôte, qui ne se renouvellera pas. De sorte qu'aujourd'hui, si quelqu'un croit au Seigneur Jésus, il entre dans un corps déjà baptisé. Mais il reçoit pour lui-même, comme enfant de Dieu, le sceau du Saint-Esprit. Mais il entre dans un corps déjà baptisé à la Pentecôte, n'est-ce pas? Comprenons cela. Mais il reçoit pour lui-même. Et puis alors les arts, eh bien il nous fait jouir de notre héritage céleste. Nous savons tous ce que cela veut dire les arts. Eh bien, le Saint-Esprit, par la parole, nous donne les arts de ce que nous allons posséder tout à l'heure en perfection, quand nous serons avec le Seigneur. Nous en avons les arts. Et enfin, il y a un autre aspect en 2 Corinthiens, c'est l'onction. En 2 Corinthiens 1, et au verset 21, Or, celui qui nous lie fermement avec vous à Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, qui aussi nous a scellés et nous a donné les arts de l'Esprit dans nos cœurs, l'onction, le sceau et les arts. Nous avons les trois choses dans ce verset. L'onction, et l'apôtre Jean reprend ce sujet en disant « Vous avez reçu l'onction de la part du Saint. » C'est le Saint-Esprit qui agit en nous, que ce soit dans nos paroles, dans nos actes, ou pour un ministère chrétien, c'est par le Saint-Esprit qu'il doit s'exercer. Et alors on pourrait quand même, sans prolonger trop, souligner son action dans l'Assemblée, que nous avons en 1 Corinthiens 12, nous avons les manifestations de l'Esprit en vue de l'utilité. 1 Corinthiens 12, nous ne lisons que quelques versets, verset 4, « Il y a diversité de dons de grâce, mais le même Esprit. Il y a diversité de services et le même Seigneur. » Verset 7, « Or à chacun est donné la manifestation de l'Esprit, en vue de l'utilité. À l'un est donné par l'Esprit la parole de sagesse, à un autre la parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, etc. » Vous voyez ici la liste des dons qui nous est donnée. Nous avons trois listes des dons. Romains 12, c'est Dieu qui donne des dons, bien que ce ne soit pas le sujet de l'Épître aux Romains. Et nous avons 1 Corinthiens 12 et nous avons Éphésiens 4. Les trois passages nous parlent des dons de l'Esprit. Alors, il y a des pasteurs, il y a des docteurs, des prophètes, et puis il y a des dons qui paraissent qu'on aurait tendance à mépriser. Par exemple, dans ce chapitre, le corps de Christ est comparé au corps humain, par exemple. Et les membres du corps qui paraissent être les plus faibles, verset 22, sont nécessaires. Et il n'y a pas de division dans le corps. Le petit doigt ne peut pas dire à l'oreille, j'ai pas besoin de toi, ou inversement. Dans notre corps, tout est harmonieux. Ce que Dieu a créé, le corps humain, c'est une merveille. Psaume 139, je te célébrerai, ô Éternel, de ce que j'ai été fait d'une étrange et merveilleuse manière. Toutes tes œuvres sont merveilleuses et mon âme le sait très bien. Le corps humain, c'est quelque chose de merveilleux. Chaque membre a son utilité et il n'y a pas de division dans le corps. Alors dans le corps de Christ, c'est la même chose et ça devrait être la même chose. Savoir que nous devrions prendre un soin égal les uns des autres et ne pas mépriser un frère qui, par exemple, qui ne dit rien, il ne dit rien. Mais est-ce que nous savons ce qu'il fait? Le Seigneur le sait, lui, il lui a donné un service. Il prie peut-être pour l'assemblée, toute l'assemblée sur son cœur, ça peut être une seule. Alors que nous avons tendance à voir, à mettre en évidence les dons apparents. Ce ne sont pas toujours les plus utiles. Non. Prenons garde à cela. Éphésiens 4 parle des jointures du fournissement. Et ces jointures, ce sont des frères ou des sœurs qui œuvrent dans une assemblée pour la paix, n'est-ce pas, ou pour veiller sur la doctrine. Ils ne font pas de bruit, mais ils agissent devant le Seigneur, avec le Seigneur. Ne soyez pas beaucoup de docteurs, mes frères, dit Jacques. Nous en recevrons un jugement plus sévère. Ce passage ne veut pas dire que si quelqu'un a reçu un don de docteur, il ne doit pas l'exercer. Non. Mais cela veut dire que plus grande est la responsabilité de celui qui a ce don. Et il doit donc mettre sa conduite en rapport avec le don. Voilà ce que veut dire ce passage. Et c'est une mise en garde, bien sûr. Nous en recevrons un jugement plus sévère. Mais d'un autre côté, Le docteur découpe droit la parole de Dieu, il expose justement, selon Timothée, la parole de la vérité, découpe droit. Parce qu'il ne faut pas mélanger les vérités, n'est-ce pas? Il faut toujours les laisser à leur place. Par exemple, il n'est pas dit que Dieu a aimé l'Assemblée. Il est dit que Dieu a tant aimé le monde. Il est dit que Christ a aimé l'Assemblée. Alors, les choses se rejoignent. Mais laissons les éléments de la vérité à leur place. C'est très important, c'est ça découper droit, ou exposer justement. Par exemple, il n'est pas dit que nous sommes enfants de Christ, nous sommes enfants de Dieu, et rachetés de Christ, n'est-ce pas ? Nous sommes l'épouse de Christ, et nous sommes la famille de Dieu. Ben, ce sont les mêmes personnes, mais vu sous un jour différent, alors laissons les choses à leur place, c'est très important cela. C'est très important. Exposer justement, découper droit, la parole de vérité. Alors le pasteur, lui, on a dit que c'était un don extrêmement rare. Le pasteur, c'est celui qui console les brebis. C'est celui qui va dans les maisons aussi, qui joint à la doctrine les visites pastorale. Et J.L.D. dit quelque part que si on ne lit pas la doctrine à la pratique de cet enseignement de Jacques, visiter la veuve et l'orphelin dans son affliction, dans leur affliction, il manque quelque chose. Dieu veuille conduire les frères à ce service précieux. Et Paul, il est dit en acte 20, il prêchait publiquement et dans les maisons. Pensons-y, chers frères ou chères sœurs, parce qu'une sœur peut très bien faire des visites à un malade, à une malade plutôt. Elle peut très bien s'en sortir de son cercle qui lui est attribué par l'Écriture, être très utile pour ce service-là. Mais les frères aussi, il semble qu'il y a un creux dans la génération qui, je me souviens de mon père et des gens de son âge, ils visitaient beaucoup. Et beaucoup de frères aussi de cette époque. Et aujourd'hui, il y a peu de frères. Nous nous permettons de faire un appel à cet égard. Visiter la veuve, l'orphelin. S'approcher de la souffrance, savez-vous que on en emporte plus que ce que l'on apporte. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Que le Seigneur nous conduise à désirer le servir aussi de cette manière, auprès de ceux qui souffrent, auprès de ceux qui sont isolés, comme dans la base qui était un fils de consolation. Eh bien, le sujet pourrait se continuer, mais il est trop tard. Seulement, dans l'Apocalypse, le désir de l'épouse, au chapitre 22. Au chapitre 22, il est dit, le Seigneur se présente, moi Jésus, celui qui a été un homme sur la terre, l'homme de douleur, à la fin de ce livre de jugement, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les assemblées. Moi, je suis la racine et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Remarquons que l'esprit est placé avant l'épouse. L'esprit est Dieu. Est-ce que nous disons aussi avec l'esprit « Viens, Seigneur » ? Est-ce que nous le désirons? Non pas pour être seulement délivrés des circonstances de la terre bien douloureuses pour beaucoup, mais pour le voir, Seigneur, pour être avec lui, pour le contempler face à face. L'esprit et l'épouse disent bien. Nous sommes persuadés, chers frères et sœurs, que dans ces temps de la fin, les derniers jours du témoignage sur la terre, le Seigneur travaille dans le cœur de l'épouse. afin que, à l'unisson avec l'Esprit, elles disent: Viens, Seigneur.